Suivre, il est 10h sur RTS Première.
Sandra Viscardi.
La commission de la concurrence enquête sur l'acquisition du voyagiste Hôtel Plan par Dertour. Il y a des soupçons de position dominante. Il faut dire que Migros avait vendu en février dernier son voyagiste Hôtel Plan, présent sur le marché suisse avec sa marque éponyme, ainsi qu'avec Migros Vacances, Travel House et Tourisme pour tous. Et comme Dertour est déjà actif en Suisse, via les marques Kony et Helvetic Tour, ça fait beaucoup. Les exportations fer de lance de l'économie suisse ont reculé en avril. Les échanges avec les États-Unis qui ont instauré des droits de douane à l'entrée de leur territoire ont accusé une baisse à deux chiffres. Les reculs les plus importants, c'est pour les produits chimiques et pharmaceutiques. Par contre, les livraisons à l'étranger de l'horlogerie ont pris l'ascenseur en hausse de 16%, affichant un pic mensuel record à 2,6 milliards de francs. Les envois vers les États-Unis ont augmenté de presque 150%, mais ceux vers la Chine ont reculé de 30% et vers Hong Kong de 22%. En France, les tracteurs vont retourner dans leurs champs. Le premier syndicat agricole, la FNSEA, suspend sa mobilisation. Décision prise au lendemain du renvoi tactique de la proposition de loi agricole, la loi Duplon. Opération qui satisfait cette organisation. La coalition du président vénézuélien Nicolas Maduro a obtenu la majorité absolue au Parlement lors des élections législatives de dimanche. C'est ce qu'a annoncé hier soir son président. La coalition remporte 256 des 285 sièges en jeu. L'opposition aura finalement 20 députés. Une chasse à l'homme engagée dans le sud de l'Iran. Il s'agit de retrouver deux hommes qui ont assassiné ce matin un juge alors qu'il se rendait au travail dans la grande ville de Shiraz, dans le sud du pays. Ce juge de 38 ans a été mortellement poignardé. Cette affaire survient 4 mois après l'assassinat à Téhéran de deux juges de la Cour suprême iranienne dans leur bureau. Un homme armé s'était ensuite suicidé. Jamais l'aide suisse à la montagne n'avait soutenu autant de projets que l'an dernier. 1030 au total grâce au programme d'impulsion solaire. Cela a permis notamment la réalisation de 494 installations solaires. En fait, 45 millions de francs ont été investis, c'est 4 millions de plus qu'en 2023. La Fondation s'inquiète car les donations en sa faveur ont diminué, tout comme les revenus provenant de successions. La recette a 5000 ans, ce pain est désormais copié et cela pousse aussi à cultiver des blés anciens qui résistent mieux à la sécheresse. En fait, c'est une application directe d'une trouvaille archéologique en Turquie, dans le centre du pays même. Un pain levé et cuit a été découvert, une galette ronde et plate, elle était carbonisée, elle a été enterrée sous la porte d'entrée d'une maison, ce qui fait penser à un rituel d'abondance. La recette assez simple, de la farine grossièrement moulue d'amidonier, c'est une variété de blé ancien, avec des graines de lentilles et puis la feuille d'une plante encore indéterminée a servi de levure. La recette a été adaptée par une boulangerie locale qui désormais vend 300 pains de ce type chaque jour. Pas mal de soleil autour du Léman et en Valais, un peu moins ailleurs, 21 degrés cet après-midi. Il fera 22 demain sous un ciel toujours partagé en matinée et plutôt gris en deuxième partie de journée, avec même quelques précipitations à partir du nord-ouest.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Chacun pour tous, la minute de solidarité avec Jean-Marc Richard.
Nous recherchons des livres de lecture niveau primaire, des jeux d'intérieur et d'extérieur, à savoir tout ce qui est utile dans une cour de récréation, jeux de créativité, trampoline, balançoire, mini toboggan, ballon de foot, etc. Pour soutenir l'association Femmes Solidaires pour l'émergence africaine et le développement particulier d'un village, de salles, de classes et de formation dans une zone forestière du sud du Cameroun, 058 236 16 00, 058 236 16 00. D'autres détails sur rts.ch/, chacun pour tous.
CQFD.
C'est d'épilepsie qu'on vous propose de parler pour commencer l'émission ce matin. Et si on l'évoque, c'est parce qu'un chercheur roman a reçu un prix prestigieux dans ce domaine. Anne Bécher, bonjour Anne.
Bonjour, oui, on parle du prix Michael. C'est l'Oscar de la recherche sur l'épilepsie sur le plan international. Et Maxime Beau est le premier Suisse à le rafler, ce prix, pour ses travaux autour de la prédictibilité potentielle des crises.
Ensuite, Manon Germont. Bonjour Manon.
Bonjour Stéphane.
Comment faire en sorte que l'hôpital soit moins source de peur et moins source de douleur pour les enfants qui doivent y aller régulièrement?
La distraction va jouer un rôle crucial. Grâce à l'éveil des cinq sens, il y a la possibilité d'éviter que le cerveau reste focus sur la peur et aussi d'éviter qu'une expérience devienne traumatisante. Nous découvrirons tout ça au HUG.
Au HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève, ce sera dans un quart d'heure. Et puis enfin, on verra comment la géologie, c'est-à-dire en gros l'étude des cailloux, peut aider à faire avancer des enquêtes criminelles. Cécile Guérin, bonjour Cécile.
Bonjour Stéphane. Oui, à partir de cas réels qui sont racontés dans la géologie au service de l'enquête, eh bien nous allons faire parler des poussières, des grains de sable retrouvés sur la scène du crime, des indices utiles pour confondre les coupables.
Voilà pour le programme qu'on vous a concocté pour ce mardi matin. Bonjour, bienvenue à vous.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS Première, Stéphane Gabiou.
Le prix Michael, la plus haute distinction internationale pour la recherche sur l'épilepsie, a donc été attribué pour la première fois à un chercheur suisse, Anne Bécher.
Oui, il s'agit de Maxime Beau, qui est un neuroscientifique et un neurologue suisse roman. Il est actuellement professeur et chef de l'unité hospitalière d'épilepsie à l'Inselspital à Berne, à l'hôpital de Lille. Il est également à la tête d'un labo de recherche en neurosciences et ce prix lui a été décerné pour son travail et ses publications autour d'une question cruciale. À quel moment les crises d'épilepsie sont-elles plus susceptible de survenir?
Maxime Beau qui est en direct avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je crois que, apparemment, c'est ce que Anne me disait, vous travaillez de nuit en ce moment, donc j'imagine que normalement, à cette heure-ci, vous dormez, c'est ça?
Oui, mais je fais volontiers une interview. Merci de l'invitation.
Alors, félicitations pour le prix et félicitations d'être resté éveillé pour nous. Ce prix, vous l'avez obtenu grâce à vos travaux sur la chronobiologie de l'épilepsie. Parce qu'il faut rappeler que l'un des aspects les plus contraignants et voilà, les plus handicapants de cette maladie, c'est qu'on ne peut pas prédire à quel moment une crise surviendra, vous confirmez ?
Oui, c'est très juste. De façon générale, aujourd'hui, un neurologue ne peut pas dire si la prochaine crise surviendra dans 2 minutes ou dans 2 mois. C'est une épée de Damoclès.
Avec laquelle il faut vivre, évidemment. Je crois que...
Alors, je sais pas s'il est encore là ou s'il y a déjà une petite... Vous êtes là, Maxime Beau? Vous êtes là. Ok, bah d'accord. Vous vous êtes arrêté, donc on s'est dit, il y a une petite coupure sur la ligne. Mais vous aviez fini votre phrase, donc on peut enchaîner.
si je dis, Maxime Beau, qu'il est possible maintenant, et grâce à ses travaux, de donner des sortes de prévisions, j'ai envie de dire météo, hein, pour les personnes qui souffrent d'épilepsie, genre, attention, à telle ou telle heure aujourd'hui, le risque, je dis bien le risque de voir apparaître, non pas je veux dire une versée de pluie, mais une crise augmente de tant de pourcents, est-ce que c'est correct?
Oui, c'est juste, on peut pas faire aujourd'hui de précision précise. Donc, comme en météo, et c'est l'analogie qu'on utilise également, on peut donner une probabilité de crise, mais pas dire quand l'éclair tombe.
Oui. Et
nos avancées, elles ont été vraiment de montrer qu'il faut évaluer le risque à l'échelle de plusieurs jours et ne pas chercher à déterminer la seconde exacte de la crise.
Oui, mais on peut dire qu'aujourd'hui, dans la journée, éventuellement, le risque monte à 30% ou dans les prochains jours, c'est ça?
C'est ce que nos calculs montrent, il faudra le tester auprès des patients.
Ok, Et puis aussi lors de certaines phases de veille ou de sommeil, c'est correct? Après un certain temps sans crise?
Oui, alors c'est juste, donc certaines personnes souffrant d'épilepsie sont sensibles au manque de sommeil ou tendent à avoir toujours leur crise pendant l'éveil, par exemple en fin d'après-midi. Mm-hmm. Donc tous ces facteurs qu'on appelle chronobiologiques jouent un rôle essentiel en fait dans la modulation du risque de crise.
Si on revient à la métaphore de la prévision météo, la prévision météo c'est pour tout le monde, hein, évidemment.
On a le même ciel pour
tout le monde, mais en ce qui concerne l'épilepsie, j'imagine que c'est propre à chaque patiente et à chaque patient.
Oui, c'est très juste à nouveau. Donc c'est des prévisions individuelles qu'on essaye de calculer. Il faut d'abord en fait comprendre la périodicité des crises propres à chaque personne avec une épilepsie non contrôlée par les médicaments.
Mmh. Alors, lors de vos travaux, vous avez travaillé avec des rongeurs hein, pour bien comprendre cette rythmique des dynamiques des connexions concernées par l'épilepsie. Et vous êtes particulièrement intéressé à ce qu'on appelle des décharges EEG intercritiques. EEG, c'est électroencéphalogramme. Hein. Donc, des décharges EEG intercritiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce phénomène, en quelques mots?
Oui, volontiers. Tout d'abord, j'aimerais dire que le travail chez les rongeurs a été essentiel à... Une fois qu'on a observé le phénomène chez les patients, j'ai ramené la question scientifique en fait pour la recherche animale. Ça nous permet d'avancer plus vite, de comprendre des associations, des mécanismes. Mm-hmm. Les décharges intercritiques, c'est en quelque sorte des étincelles que le cerveau épileptique produit de façon variable. Et le vent souffle périodiquement pour rallumer le feu, en fait. C'est là que les crises d'épilepsie partent. Et ces décharges épileptiques entre les crises ont certainement une valeur pour comprendre le dysfonctionnement des réseaux sous-jacents au cerveau épileptique.
Ouais, donc il faut les identifier, les observer, ces décharges EEG intercritiques à suivre. Pour les humains, comment est-ce que vous y êtes pris pour avoir assez de données pour que statistiquement on puisse faire ces prévisions météo de risque accru?
Oui, comme souvent, une avancée technique a en fait fait avancer la science. Aujourd'hui, il existe des appareils implantables d'électroencéphalographie et de stimulation cérébrale pour l'épilepsie, pour d'autres maladies neurologiques également. Et ça permet en fait dans l'épilepsie de faire des enregistrements EEG sur plusieurs mois, voire des années. Mmh. C'est ainsi qu'on a pu obtenir des résultats en suffisance pour ne plus laisser la place au doute.
Ouais. Donc c'est un calcul statistique après. Alors là, vous êtes passé à une étape supérieure hein, en parlant de stimulation, d'implantation d'EEG. Vous êtes passé à une étape supérieure en termes d'application puisque vous êtes associé à l'EPFL et au Vice Center pour inventer un nouvel appareil EEG, un nouvel appareil que vous avez déjà testé à l'hôpital de Lille à Berne, avec cette fois un dispositif inséré sous le scalp, donc sous la peau. Alors première question, ça sera quoi l'utilité de ce dispositif? C'est quoi le but recherché avec ce nouveau dispositif?
Donc c'est à nouveau de faire des enregistrements sur le long terme de façon minimalement invasive. On a commencé en 2017 avec le Vice Center à Genève à prototyper un appareil qui peut être implanté en fait sous la peau, le scalp. Et on l'a testé avec mon collègue neurochirurgien, professeur Claudio Polo. On a validé les électrodes, en fait. Elles s'insèrent sans problème sous le scalp. Elles permettent d'enregistrer du signal de qualité. Mais aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais, basé sur les connaissances et la compréhension actuelle des réseaux épileptiques, développer un appareil qui puisse, en fait, rétablir les oscillations cérébrales saines. Et pour ça, un partenariat avec l'École Polytechnique est idéal pour vraiment pousser l'innovation et aller plus loin dans le genre d'appareil qu'on peut développer aujourd'hui.
Donc l'idée, ça serait quoi? De prévenir les éventuelles crises quand il y a la météo qui change, c'est ça?
C'est ça. Donc la météo, c'est pour tout le monde, mais on peut pas la changer. Tandis que le cerveau épileptique, on peut chercher à moduler en fait ses activités dysfonctionnelles et le ramener sur les rails, si vous voulez. Donc l'idée, c'est au-delà de la prédiction, au-delà du forecasting de crise, on aimerait pouvoir influencer les oscillations cérébrales pour éviter qu'elles se transforment en crise d'épilepsie.
Oui, parce que pour l'instant, hein, il y a différents dispositifs. Il y a des électrodes sur le crâne hein, pour l'observation de l'épilepsie. Et puis, il y en a à l'intérieur du cerveau lui-même aussi qui font des sortes de stimulations. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Mais le vôtre, il est entre les deux. Il est moins invasif. C'est ça qui est nouveau. Hein.
Oui, c'est exactement ça. Ces électrodes ne pénètrent pas la boîte crânienne, mais elles peuvent rester en fait sous le scalp, probablement pour plusieurs mois, le temps d'améliorer la situation.
Si un donateur, j'imagine qu'il faut de l'argent, si un donateur anonyme qui nous écoute était sur le point de signer un chèque, il se dit « Ah tiens, j'ai entendu Maxime Beau à la radio ».
Ça me semble intéressant.
Ça me semble intéressant. Il faudrait quel montant pour vos travaux?
Quelques chiffres à 6-0 sont toujours bons à prendre.
6-0, il n'y a pas de virgule au milieu, c'est ça. Hein, donc on est d'accord, voilà, il compte la virgule, on la met à la fin.
On peut faire en plusieurs chèques.
Aussi, très bien.
Je vous donne mon IBAN.
Voilà, avec un grand plaisir, on va se charger de transmettre s'il y a des personnes qui nous écrivent. Merci beaucoup en tous les cas et bravo.
Merci.
Encore. Donc Maxime Beau, je rappelle que vous êtes neurologue et vous êtes vu octroyer donc le prix Michael, la plus haute distinction internationale pour la recherche dans le domaine de l'épilepsie. On souhaite une bonne nuit, puisque vous allez vous coucher maintenant, c'est ça?
Non, j'attends la prochaine. Allez, comment bonne journée à vous.
Vous allez pas vous arrêter, donc vous continuez la journée.
Ben oui, effectivement.
Ouais. Bon, bah, bravo alors, bravo à vous et courage. Merci.
Merci, tout bon, au revoir, bonne journée. Au revoir.
En bref, Anne, ce n'est pas la taille de la proie qui compte pour le mégalodon.
Eh bien non, selon l'université de Francfort, le gigantesque requin préhistorique mégalodon n'a pas à manger que des baleines et des gros trucs. Hein. Et c'est l'analyse des dents d'un individu mégalodon, donc avec une attention particulière à l'élément zinc qu'elles contiennent, qui les a renseignés sur le type de proie qu'on consommés par la bête. Parce que les proies en haut de la chaîne alimentaire ont un indice de zinc différent que ceux du bas. La conclusion est claire, du haut en bas, Mégalodon avalait de tout pour environ 100 000 kilocalories. Quand même. Par jour, ouais, il faut nourrir tout ça. Notre étude donne plutôt du mégalodon l'image d'un généraliste écologiquement polyvalent, conclut McCormack, le chef du projet.
C'est un système immunitaire très efficace qui permet aux chauves-souris porteuses de virus de ne pas tomber malades elles-mêmes.
C'est ce que confirment les travaux d'une équipe austro-allemande dans la revue Nature Immunology qui a infecté des organoïdes de cellules de poumons et d'intestins de chauves-souris. Avec quoi ? Avec rien de moins que des virus de Marbourg qui causent dans la vraie vie une fièvre hémorragique gravissime et très souvent mortelle pour les humains. Non seulement leur système immunitaire empêche le virus de pénétrer dans les mucus pulmonaires et de se multiplier, mais en plus, il produit des quantités énormes de substances messagères qu'on appelle les interférons, qui combattent, mais alors badass, les infections virales en activant des centaines de gènes antiviraux.
Et enfin, les éruptions volcaniques peuvent piéger plus de carbone qu'elles n'en émettent.
C'est la conclusion d'une étude suisse et belge publiée dans la revue Nature Communications. Les auteurs ont découvert que la quantité de carbone stockée dans les sols volcaniques équatoriens qu'ils ont étudiés dépasse de 3 à 15 fois les émissions cumulées de carbone des éruptions responsables de leur enfouissement. Ces événements explosifs deviennent ainsi négatifs en carbone.
Merci beaucoup Anne Béchard, vous êtes de retour demain pour une nouvelle séquence actualité. Puis dans quelques minutes dans CQFD, des soins médicaux adaptés aux enfants pour éviter des traumatismes, Manon Germont.
Oui, grâce à des astuces très simples, des techniques de diversion ou une communication plus douce, les soins hospitaliers peuvent être mieux vécus.
CQFD sur RTS Première.
For me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Formidable, c'était évidemment le grand Charles Aznavour.
CQFD, à réécouter sur Play RTS.
Être un enfant et se retrouver à l'hôpital pour une maladie ou pour un accident, on imagine que ça peut vite éveiller la peur chez lui, en plus de la douleur à gérer. Aux hôpitaux universitaires de Genève, plusieurs démarches ont été mises sur pied pour éviter tout risque de traumatisme et tenter de transformer ces moments douloureux et inconfortables, les transformer en moments plus agréables. On va l'entendre, Manon Germont, des démarches qui peuvent sembler anodines, mais qui font la différence, notamment par rapport à un suivi médical sur le long terme.
Oui, commençons par nous rendre à l'unité des bébés des HUG dans une salle dite pour les douleurs induites ou anxiogènes, c'est-à-dire un lieu où sont effectuées les prises de sang ou que, par exemple, des électrodes sont installées sur les enfants pour effectuer des électrocardiogrammes. Une chambre volontairement accueillante. On y retrouve Christelle Touvron, elle est infirmière et chargée de la cellule confort pour la pédiatrie, et Fabiola Stollard, médecin adjointe co-responsable d'unité au service de pédiatrie générale des HUG.
Le but de la création de cette salle, c'est pour laisser la chambre d'enfant un endroit de sécurité où il peut dormir, où il peut rester avec ses parents et pas un endroit où on va faire des soins.
C'est une petite chambre avec des guirlandes très colorées, des perroquets suspendus. Au plafond, il y a aussi des animaux, une jungle. C'est vrai que c'est très coloré. Ça, c'est vraiment une volonté de rendre le lieu plus rassurant?
On voulait essayer de la rendre la moins médicale possible. C'est-à-dire qu'il rentre là et d'ailleurs là, en commande, il y a une girafe à mettre sur la bonbonne de gaz qu'on appelle gaz hilarant, le gaz qui va détendre l'enfant. En plus de toute cette distraction qui va être axée sur les cinq sens. Donc, on a du bruit, on a de la senteur, de la lumière. On encourage aussi beaucoup les parents à chanter. Il va rentrer là, il va pas se dire on va me faire du mal. D'ailleurs, on n'emploie plus le mot mal, on va faire du bien. Donc le langage des soignants a changé également. On est vraiment dans une évolution du soin à douleur induite. Donc on essaye de justement de travailler la communication, la distraction et puis la formation des soignants à faire le geste aussi différemment, donc dans les bras des parents.
Parce que qu'est-ce que ça va changer au moment de l'intervention d'avoir un enfant stressé concrètement pour vous ?
Alors pour nous, forcément, à force, ça crée une frustration professionnelle de voir qu'on fait des soins de mauvaise qualité. Si on fait pleurer l'enfant, pour nous, c'est un soin de mauvaise qualité, quelque part. On le contient. Donc là, notre projet, essayer d'aller vers zéro contention. Or, le soignant, on a fait un questionnaire avant de mettre ce projet en place, n'a pas conscience qu'il contient l'enfant. Pour lui, maintenir très fort le bras et que l'enfant pleure à la moitié du soin, c'était pas forcément de la contention, parce qu'on est obligé de tenir le bras. Or, on montre au soignant qu'on peut faire différemment. Mais il se rend compte que oui, il fait de la contention, qu'il fait pas forcément un soin qui lui convient. Donc bien pour le soignant, bien pour l'enfant, parce qu'un soin de mauvaise qualité, c'est-à-dire si l'enfant a peur de la blouse blanche une fois, mais il aura peur, on dit jusqu'à 40 fois avant que le soin se passe vraiment bien et qu'il ait oublié c'est ce soin qui s'est mal passé. Donc nous, on veut éviter ce soin mal passé.
Il y a cette notion de traumatisme, c'est peut-être un mot très fort, mais vraiment de cette première expérience qui peut marquer l'enfant.
Ah mais c'est un traumatisme, c'est même nommé syndrome post-traumatique du soin hospitalier, et ça on veut l'éviter à tout prix.
Est-ce qu'il y a aussi une évolution de la perception de la douleur de l'enfant ? Parce que c'est vrai qu'encore récemment, on n'imaginait pas qu'un bébé pouvait avoir mal. Ça a changé.
On pensait que l'enfant avait pas mal. Et après, il y a plusieurs études au fur et à mesure qui ont été écrites, qui ont montré que oui, que l'enfant a mal et qu'il y a même cette mémoire de la douleur qui peut être créée et que ça peut rester très longtemps après. Et après, ça crée une méfiance par rapport aux professionnels de santé. Ça peut créer même des situations où les enfants ou même des adultes après veulent pas venir à l'hôpital ou aller dans un endroit pour se faire soigner, jusqu'à l'hésitation vaccinale. Si on regarde un peu les études par rapport à l'hésitation vaccinale, par rapport à la COVID, par exemple, une des raisons, c'était la peur des aiguilles. Donc, même des petites piqûres pour les nouveau-nés, pour faire les tests de goutterie, par exemple, ou des tests de glycémie, qui avant, on pensait, ah non, il n'y a pas de problème. De plus en plus, on voit des études qui montrent que ces petites piqûres, à la naissance, ça peut avoir des effets à très long terme après.
Du coup, Manon, comment la distraction va permettre d'éviter que l'enfant ne ressente la douleur ?
Fabiola Stollard va nous l'expliquer. Vous allez l'entendre, le cerveau de l'enfant va jouer un rôle important.
Quand on est dans une situation de peur et d'anxiété, c'est plutôt notre cerveau reptilien, je peux dire, qui agit sous les émotions. Et les côtés cortex préfrontal, que c'est la partie plus consciente, elle est un peu oubliée. Donc, c'est plutôt le côté émotion qui va agir. Donc, ou on va fuir, ou on va lutter, ou on va être paralysé. Et ça fait comme si le cerveau, il pouvait filtrer que les images de danger. On est vraiment dans l'anxiété, dans la peur, dans le stress, avec la production aussi de cortisol, toutes les hormones qui vont augmenter encore cette sensation de peur. Et après, avec les outils qu'on peut utiliser, soit l'hypnose, soit la respiration, soit toutes les autres sens qu'on va mettre en place, c'est comme si on retirait l'attention de l'enfant qui était focalisée sur la peur, sur le stress, et on mettait à nouveau l'attention sur quelque chose de plus agréable. Et il y a par exemple les buzzies qu'on met sur la peau.
C'est une petite coccinelle en fait,
petite coccinelle.
La taille d'une paume de main, on va dire.
Voilà, okay. Ouais. Mais en fait, ça fait une petite vibration qui fait que on a des ailettes au congélateur et puis on le met sur la zone nerveuse sur laquelle on va piquer l'enfant, surtout pour un vaccin et puis ou pour un petit prélèvement capillaire sur un bout de doigt. Et ensuite, on déplace discrètement le buzzy en parlant à l'enfant, en distrayant l'enfant, en détournant son attention et on pique à l'endroit où était le buzzy et l'enfant ne ressent pas de douleur. On a fait une vidéo pour les soignants, c'est bluffant, la jeune fille de 7 ans continue de parler comme si de rien n'était pendant son vaccin. Sinon, il choisit son petit animal, il le pose dessus et là le son s'enclenche, la petite comptine s'enclenche.
Donc là, l'enfant serait sur les genoux, par exemple, de son papa ou de sa maman. Et puis,
il pose le petit animal qu'il a choisi et ça enclenche la musique. Après, il peut changer. Et du coup, il...
Et puis ça, pendant que l'enfant fait ça, en fait, vous piquez...
Exactement. Voilà, dès qu'il est pris dans le truc, « Ah, t'as choisi la vache !» Ah, c'est super, vas-y, on essaye l'autre. Lequel tu veux d'autre? Il en met un autre. Et du coup, on associe et on change à chaque fois qu'il change d'animal la lumière qui est projetée au plafond.
Et c'est vrai que ça demande aussi aux soignants de jouer le jeu, quelque part, et de faire cet effort-là. Ça modifie aussi un peu l'interaction et le métier.
Oui, c'est pour ça qu'on a remis cette formation en place de communication thérapeutique, vraiment pour rappeler aux soignants tous les outils simples à disposition et leur mode de fonctionnement et pouvoir leur redonner l'élan de le faire avec des petits jeux de rôle pratiques pour qu'ils osent, parce que en Europe, on n'ose pas trop chanter, danser, animer devant l'enfant. On est un peu plus réservé. En montrant des vidéos de ce qui se passe au Brésil, par exemple, où les soignants chantent et dansent en même temps qu'ils font le soin à l'enfant, ça permet peut-être un peu aussi de leur donner l'élan pour oser.
Comment distraire les enfants à l'hôpital pour limiter au maximum leur sentiment de peur et la douleur? Restez avec nous dans quelques minutes, on va entendre Cyril Sayoun, il est médecin responsable de la cellule confort aux hôpitaux universitaires de Genève. Et puis on aura également à notre micro Laurent Jardinier, infirmier spécialisé au HUG.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a deep breath and I get real high and I scream from the top.
and my life is still trying to get up that creepy hill of hope.
Une chanson de 1992, What's Up, signée les Four Non-Blondes, c'est-à-dire les quatre non-blondes, et c'est exactement ce que nous sommes aujourd'hui dans CQFD, puisqu'il y a Manon, vous êtes châtain foncé.
J'ai des petits bouts blonds, là.
Vous avez des...
des petits bouts blonds, mais...
Des petits bouts de blonds, il faut vraiment les chercher, mais c'est vrai, un petit peu au sommet de la tête. Cécile, vous êtes aussi
assez ancienne
foncée.
Blonde.
Une ancienne blonde, là, je ne sais pas que vous étiez blonde.
Petite.
Mathieu Ramsauer, il lui reste ce qui lui reste sur la tête, pas grand-chose, mais il a une très jolie casquette, et puis moi, je suis pas très blond non plus. Voilà, donc on est raccord avec la chanson qu'on vient d'entendre. Des soins médicaux adaptés aux enfants pour éviter des traumatismes, par exemple quand ils sont pris en charge à l'hôpital. On était il y a quelques minutes dans l'unité des bébés des hôpitaux universitaires de Genève. Maintenant, un autre programme en ambulatoire, cette fois-ci pour des enfants qui ne sont pas hospitalisés, existe aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors c'est une prise en charge financée par le privé et destinée à des enfants phobiques, autistes ou avec des troubles du comportement et qui n'ont par exemple pas eu de vaccins depuis des années parce que c'était trop intense, trop compliqué de les emmener chez un médecin. Ou encore des jeunes patients qui doivent être suivis régulièrement et pour qui les visites fréquentes deviennent compliquées aussi. Finalement, c'est un programme pour réconcilier le petit patient avec les soins et pour recréer une relation de confiance avec les soignants. Tout ça dans le but, en fait, d'assurer un bon suivi médical sur le long terme et chaque instant de la rencontre compte, comme le raconte Cyril Sayoun, médecin responsable de la cellule confort au HUG.
On aime bien les faire leur connaissance ou les rencontrer en salle d'attente. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit un peu neutre, un peu qui ne fait pas nécessairement peur. Il y a des jeux. Et plutôt que de les connaître une fois qu'ils sont dans la salle, installés sur un brancard qui est froid et qui fait peur. Parfois même, on administrait, si besoin, le premier médicament en salle d'attente. Et puis, gentiment, on se dirigerait vers la salle.
Chambre qui contient quelques jouets et ce jour-là, on retrouve un garçon de 4 ans qui souffre d'une maladie chronique et qui vient pour une prise de sang. Il faut remplir l'équivalent de 10 tubes. Il sera endormi grâce à un spray nasal. Une lumière colorée éclaire le plafond de la salle de soins.
C'est très cool.
Bravo.
And now, you can decide. Is it mommy that gives you the spray or is it Dr. Cyril? What do you prefer, my love?
Les enfants sont habitués au spray nasal à la maison, par les parents. Donc ce petit garçon, la mère m'a envoyé un message hier soir pour me dire « Victoire, on a réussi depuis 3 jours à mettre le spray nasal. Pourquoi » Pourquoi? Parce qu'ici, le moment le plus difficile, c'est le spray nasal. C'est un spray de médicament qui va gentiment l'endormir, cet enfant, jusqu'à ce qu'il soit un peu plus grand et qu'il n'ait plus besoin de ses prises de sang régulières, surtout qu'il est un peu potelé, qu'on ne voit pas bien ses veines, donc il faut parfois essayer plusieurs fois. Mais le plus important, c'est que chaque fois qu'il revient, il est davantage en confiance. Comme cet enfant maintenant qui marche en rentrant à l'hôpital. La dernière fois, c'était sur la poussette, coincé pour entrer à l'hôpital. Il ne pouvait pas rentrer autrement. Et là, il marche de lui-même pour entrer. Il a même accepté des patchs d'anesthésiant, chose qu'il n'avait pas accepté la fois passée.
Et une fois le spray administré, l'enfant s'endort, puis le médecin et l'infirmier entrent et effectuent très délicatement les soins, tout en essayant de maintenir l'enfant endormi. Donc tout le monde chuchote dans la salle, et dès que l'enfant semble se réveiller, les soignants arrêtent tout, se retirent, en attendant que l'enfant s'apaise à nouveau. C'est vraiment très doux, très calme, même quand ils sont 4 adultes autour de lui pour réussir à trouver une bonne veine.
Donc le soin est terminé, on a réussi à la deuxième tentative de prise de sang d'avoir tous les tubes nécessaires. Et comme vous voyez, il ne s'est pas réveillé, il dormait, peut-être il a bougé un peu, mais il n'a pas dit « aïe », rien du tout. Et donc, pour lui, le vécu, ce qu'on entend de nos enfants, c'était un peu comme un rêve qui était un peu mouvementé. Mais il n'y a pas de traumatisme qui vient s'installer, c'est ça le plus important. Même s'il a eu un peu de sentiment, même si on a dû le rassurer une fois, le plus important, c'est le traumatisme qu'on ne veut pas qu'il vienne s'installer.
À l'inverse, alors comment expliquer que parfois le traumatisme s'installe? Les explications de Cyril Sayoun et Laurent Jardinier, tous les deux fondateurs de ce programme.
Ce traumatisme, il ne vient que d'une bonne intention. On a les soignants qui savent qu'il faut faire ce bilan pour que cet enfant soit en bonne santé. Les parents qui savent très bien que cette maladie nécessite un bilan régulier. Mais nous voilà avec ce qu'on appelle une cécité empathique transitoire. Donc pendant un petit moment, on devient aveugle à l'empathie. Et nous-mêmes, soignants, on retient l'enfant contre son gré pendant le soin parce que c'est pour son bien. Et en fait, ce que ça inflige, c'est quelque chose qui finit par être là, bien installé. Mais on pensait que c'était très compliqué à guérir, mais ce qu'on voit avec Laurent, c'est qu'il suffit de 2-3 belles prises en charge et tout le monde en est guéri.
Et pour certains enfants, on fait ce qu'on appelle des visites blanches aussi, c'est-à-dire qu'on fait venir l'enfant avec ses parents pour juste nous rencontrer, lui montrer le matériel peut-être qu'on va utiliser ou juste avoir un premier contact avec lui. Et là, c'est vrai qu'on voit aussi des effets vraiment bénéfiques parce que l'enfant, quand il revient la fois d'après, ben, il nous a déjà vus. Il sait un peu le déroulé de ce qu'on va faire et il a déjà une autre attitude.
Alors, bien sûr, on remplace cette contention physique par ce qu'on pourrait appeler une contention pharmacologique. Mais, donc ça veut dire plutôt que de l'enfant qu'on le retienne contre son gré, eh bien, le médicament le détend, l'endort un peu, ce n'est pas de l'anesthésie générale, c'est très sécuritaire. Mais c'est quand même une sorte, on pourrait appeler ça une contention pharmacologique, qui est beaucoup moins... Ou je vais dire qu'il n'est pas du tout traumatisante comme la contention physique, mais qui est aussi à remplacer. Et c'est pour ça que, pour nous, comme on dit, le succès, c'est pas avoir réussi le soin avec des médicaments. C'est qu'au fil du temps, on ait besoin de moins en moins, voire plus du tout de médicaments.
Le but est vraiment de s'assurer que l'enfant pourra revenir confiant à l'hôpital.
Exactement, oui. Et pour terminer, vous allez entendre le témoignage d'un papa dont le fils bénéficie de ce programme. Son garçon souffre d'insuffisance rénale. Donc depuis sa naissance, il côtoie les hôpitaux pour des prises de sang et une gazométrie régulière. C'est vraiment comme une petite paille dans laquelle une goutte de sang doit couler sans qu'aucune bulle d'air n'entre. On peut bien imaginer que quand l'enfant bouge ou se débat, ça devient très compliqué. Le papa commence par raconter les soins avant d'être suivi par ce programme. Donc il y a de nombreux rendez-vous à l'hôpital qui se passaient très bien, mais il y en a aussi de nombreux où l'enfant devait être piqué à 4 ou 5 endroits différents pour obtenir suffisamment de sang. Et c'était vraiment beaucoup plus pénible pour lui.
Il fallait vraiment le tenir pour tenir son doigt, pour continuer à irriguer en fait cette petite paille. Au bout de 2 veines, il disait « Est-ce que vous voulez continuer ?» Et en fait, la décision à ce moment-là, elle se passe très vite aussi dans la tête du parent. C'est, si on continue pas, après on rentre à la maison et puis on se dit oh, « c'est tellement nul, on doit retourner dans 2 semaines, j'aurais dû dire quand même qu'on essaye encore une fois ». Et puis si on reste puis que ça se passe mal, on se dit « mais pourquoi je m'acharne ?» En fait, on se retrouve dans cette situation un peu en tant que parent à tenir un enfant en lui disant « tout va bien, c'est pour ton bien », en se disant que peut-être il comprend pas parce qu'il est trop petit, là il avait vraiment 1 an et demi, 2 ans, alors que d'autres adultes lui font mal, lui font ça pour son bien, mais lui font mal au final quand même. Puis en fait, il y a un moment où, à cause de ses soins, à cause de ce moment de soins qui est un peu pénible, etc., en fait, on se retrouve à défendre une idée encore qui est très positive, très optimiste par rapport à l'hôpital, mais qui est plus tellement en relation avec ce qu'il y vit, lui. Et on sent un peu en décrochage, et on se dit, quand on lui dit, demain on va à l'hôpital, puis qu'il en parle toute la soirée, et le lendemain il se réveille, il est tendu, parce qu'il doit y aller, etc., on s'est dit, on commence à arriver sur une configuration qui est compliquée, parce que il peut pas maintenant déjà avoir peur d'aller à l'hôpital, alors qu'il va y aller pendant les 40, 50, 60 prochaines années. Et c'est pour ça que quand on a eu... la proposition de notre urologue et de notre néphrologue qui nous a dit « Ah, mais il y a un nouveau service qui est ouvert, qui s'appelle les services de confort procédural, etc. » Et je me rappelle que le jour avant ma visite à l'hôpital, le docteur Sayoun m'a appelé. Et en fait, on a échangé, il m'a dit « Vous inquiétez pas, donc ça va super bien se passer, il m'explique, etc. etc. » Et puis c'est un échange normal, enfin j'ai pas senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais en fait, je suis rentré dans mon bureau après et en fait, j'ai pleuré à ce moment-là et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et en fait, c'était de soulagement. C'était juste « demain, ça va bien se passer ». C'est sûr que ça va bien se passer parce que il y a aucune chance qu'il soit en souffrance et aucune chance que je doive me mettre dans une position qui est compliquée pour lui à le tenir, etc. Et je me rappelle que ça m'a fait un soulagement immense en fait sur les épaules. Puis après, on est allé, le lendemain matin, on est allé. Et en fait, je me rappelle qu'ils ont vraiment pris le temps. C'était exceptionnel. Enfin, c'était comme si il existait que mon fils à ce moment-là et qu'on avait le temps de faire les choses. Et en fait, c'était finalement qu'une bonne expérience. Enfin, toute la matinée a été cool. J'ai passé un moment chouette avec mon enfant. Et puis, on a passé une matinée les deux. C'était à l'hôpital, ça aurait pu être dans un parc. Mais on a passé à l'hôpital. Et il n'y avait plus ce côté... un peu traumatique pour le papa et pour l'enfant.
Pour votre fils, qu'est-ce que ça a changé dans son approche de ses rendez-vous médicaux ?
Je pense que c'est difficile d'évaluer déjà maintenant. Parce que je pense que quand on lui dit encore maintenant on va à l'hôpital, on sent que c'est un moment de tension ou ou de questionnement. Mais je pense qu'on a inversé la tendance. Je pense que ça va vraiment changer sa vie sur le long terme. C'est-à-dire que on est vraiment dans une phase un peu critique. Je pense que dans quelques temps, en tout cas les médecins nous le disaient, dans quelques temps les prises de sang seront plus faciles. Parce qu'en termes de sa morphologie, on va atteindre les veines plus facilement, on va, voilà, etc. C'est juste une question, c'est le moment de sa vie qui est un peu compliqué pour... Et si on arrive à couvrir ça avec quelque chose qui met un peu en voile sur ce qui n'est pas agréable quand il y va, et qu'en fait on le fait sortir un peu de cette période-là, et qu'après il reprend, je pense que ça va sûrement le lancer mieux dans une relation durable avec l'hôpital. Parce que c'est ça qu'on cherchait, en fait, dès le début. C'est qu'on veut que cet endroit, il va y passer tellement de temps qu'on veut qu'il ait une bonne relation avec l'hôpital, quoi.
Et pour renforcer la démarche, les parents sont invités à raconter à l'enfant ce qui s'est passé pendant qu'il dormait, voire même lui montrer des photos des tubes de sang récoltés. En fait, c'est toujours dans le but de renforcer ce message. Oui, tu as bien eu tes examens et ça s'est bien passé.
Merci beaucoup Manon Germont de nous avoir fait découvrir donc ces deux prestations des hôpitaux universitaires de Genève dans le but d'accompagner les enfants à mieux vivre les soins hospitaliers. On le souligne peut-être une nouvelle fois, c'est vraiment des enfants qui sont hospitalisés au long cours, hein, donc pour des maladies chroniques. Donc soit ils sont longtemps à l'hôpital, soit ils y viennent très régulièrement.
Voilà, ce serait pas possible pour l'ensemble des enfants, c'est vraiment des démarches particulières.
Ouais. Démarches qui montrent aussi que la prise en charge des enfants évolue et que leur douleur est de plus en plus prise en compte. Merci beaucoup Manon Germont. Mon coup d'œil sur la route.
Infotrafic RTS.
La route où des objets sont signalés, en l'occurrence sur l'A9 Vevey-Martigny, entre Montreux et Villeneuve en direction de Martigny, et sur l'autoroute Lausanne-Morat entre Chavornay et Yverdon Sud en direction de Morat. Prudence si vous circulez sur ces tronçons. Tiens, on va faire un peu de géoforensique dans un instant, Cécile Guérin-Quézaco.
C'est la géologie appliquée à l'enquête quand on analyse la scène du crime et qu'on identifie des preuves à l'aide de cailloux, grains de sable et autres roches.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali, je suis Mali. Allongé seul sur mon lit, j'ai le corps à Paris, mais je l'ai solitaire pour toucher ta magie, noire ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vu d'ici. Je suis Mali,
puissance, Mali, puissance.
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 Je suis Mali.
Ma
Extrait de La Molmali, Totem, c'est le dernier album du projet mené par Mathieu Chédid et Fatoumata Diawara. Cette chanson Je suis Mali, et bien tous les deux seront, enfin toute l'équipe, tout le projet sera en concert le 18 juillet prochain à Sion dans le cadre du festival Sion sous les étoiles. CQFD, et si les cailloux pouvaient parler, les cailloux à présent sur la scène d'un crime, ils semblent évidemment bien souvent silencieux, or ils ont beaucoup à raconter grâce aux expertes et aux experts géologues. Quelques grains de sable, des micro-fossiles, une argile particulière permet en effet parfois de confondre les coupables, Cécile Guérin.
Oui, parmi les techniques de la police scientifique, nous avons souvent en tête les tests ADN qui permettent d'identifier les suspects, mais on connaît nettement moins la géoforensique, quand les géologues font parler des traces qui contiennent de la terre, de la boue, du sable. Souvent, parfois, quelques grains microscopiques suffisent. Patrick de Wever est géologue et grand vulgarisateur de cette science à laquelle il a dédié de nombreux ouvrages, et dans la géologie au service de l'enquête aux éditions Belin, qu'il a coécrit avec la collaboration de Richard Marlet, expert de la police scientifique. Nous découvrons 94 affaires. Parmi celles-ci, nous allons vous raconter quelques histoires de crimes, de vols, où des traces minérales ont mis les enquêteurs sur la bonne piste.
Patrick de Wever, qui est avec nous dans CQFD aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Géologue, donc, co-auteur de ce livre, Cécile le citait, La géologie au service de l'enquête. C'est donc votre passion de faire parler les cailloux?
Oui, la passion est venue quand je me suis aperçu que les cailloux, qui étaient silencieux, comme tout le monde le pense, en fait nous parlaient et nous racontent des histoires tout à fait extraordinaires. Et justement, ce sont des affaires, on n'a pas besoin de science-fiction quand on fait de la géologie, parce qu'on travaille avec des mondes tellement anciens qui nous révèlent des choses tellement stupéfiantes. Pour tout le monde, le fossile, c'est le gros dinosaure. Mais le géologue que je suis, surtout que j'ai travaillé dessus, je travaille sur le monde microscopique. Mais c'est le monde microscopique qui influe sur le climat. Regardez vos montagnes calcaires, elles ne sont pas constituées d'accumulation d'os de dinosaures, mais d'accumulation de microscopiques squelettes. Mmh. Donc c'est le tout petit qui est infiniment nombreux, et c'est lui qui est important pour l'environnement, mmh. et c'est lui qui donne autant d'indices justement pour la police scientifique.
Alors on va essayer de raconter finalement une ou deux histoires très concrètes, des histoires vraies, hein, on le précise. Première situation, nous sommes en octobre 1904, Eva Dish est retrouvée morte, étranglée avec sa propre écharpe de soie rouge et bleue. Sur la scène du crime, un mouchoir sale avec des traces de charbon, des restes de tabac et quelques grains sombres. Comment se déroule l'enquête, Patrick de Wever?
Donc d'abord, elle est retrouvée, on examine un peu les alentours, et quand même, ce qui semble un peu spécial, c'est ce mouchoir dont vous parlez, qui est un peu sale, manifestement, il ne lui appartient pas. Et donc, assez rapidement, il suspecte quelqu'un qui habite à proximité d'être l'auteur de ce mouchoir. Bien sûr, il est interrogé. Bien évidemment, il nie. Mais dans ce mouchoir, on retrouve des traces de tabac, vous l'avez dit. Or, ce monsieur fume ce type de tabac. Et puis, des petits grains un peu bizarres que l'on appelle des amphiboles. Hein. Ce sont vraiment, ça se présente sous forme de petites baguettes. Et ces minéraux ne se trouvent pas n'importe où et à n'importe quelle condition. Et donc, et puis aussi des paillettes de mica. Hein, vous voyez, les mica, on connaît bien les mica blancs, les mica noirs, etc. Et il travaille à un endroit où il y a du charbon et il y a aussi ces petits minéraux. Donc, ça commence, la suspicion s'avère. Et puis après, donc, des fouilles ont été effectuées chez lui. On a retrouvé chez lui des petites traces, des fragments de fil du foulard de soie rouge et bleu que portait la victime, etc. Donc, il a à côté de la victime, on a des éléments du criminel, et lui a des éléments de la victime. Donc, ça permet des rapprochements. C'est le grand principe des transferts qu'avait mis en évidence le grand criminaliste français Locard.
C'est-à-dire qu'une trace sur la victime va sur le coupable, et la même chose, une trace sur le coupable, enfin un tissu peut aller sur la victime. C'est ça, ce transfert.
Lui, il va plus loin, il dit tout contact fait un échange.
Mmh.
Et on prend des éléments et on laisse des éléments.
Ce qui est intéressant dans cette première histoire, c'est que le criminaliste allemand Georg Popp, c'est le premier finalement à utiliser ces traces minérales comme indice dans une enquête. On est en 1904.
Oui, les traces minérales, oui, effectivement, c'est lui. Mais en fait, un demi-siècle avant, il y avait déjà un autre Allemand, Ehrenberg, qui avait utilisé des traces microscopiques. Et là, c'était un transfert d'argent qui avait lieu dans des malles, par voie ferrée en Prusse. Et à l'arrivée, les malles étaient remplacées par des cailloux. Et il a regardé les cailloux, il les a regardés au microscope. Et il a ainsi vu des éléments qui lui permettaient de dire où avait été effectué le transfert, et à partir de là, l'enquête était circonscrite et le coupable a fini par être appréhendé.
Deuxième situation, si vous êtes d'accord toujours de nous la raconter, Patrick de Wever, nous sommes cette fois-ci en Californie, le 2 août 1921. Le curé Patrick Heslin est kidnappé, puis peu après, retrouvé mort sur une plage. Là, les grains de sable vont livrer des réponses ?
Oui, alors c'est la même chose. Le curé est disparu, une rançon avait été demandée, mais il n'y a pas eu de suite. Et puis le curé était disparu pendant assez longtemps. Et un jour, un monsieur vient en disant « j'ai retrouvé ce prêtre enterré sur la plage ». Et donc, il y a des sédiments qui sont pris. Et à l'époque, régnait un monsieur qu'on appelait le sorcier de Berkeley. C'était un policier qui était apparemment assez génial pour, à la fois tenace et très efficace, pour trouver tout type de traces. Et paraît-il aussi un graphologue averti. Et dans le message de qui demandait la rançon, il dit « c'est l'écriture d'un boulanger ou d'un pâtissier ». Alors comment il a fait ça, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ça attire l'attention, parce que celui qui déclare avoir trouvé le cadavre est boulanger. Donc vous voyez, ça attire l'attention, et ils vont chez ce monsieur, et ils retrouvent une toile de tente, et ils retrouvent le sable de la plage où la victime a été retrouvée. Bref, l'étau s'est resserré, et il a fini par avouer.
Des fois, ces traces minérales sont parfois que des indices, hein, ce ne sont pas forcément des preuves, mais ça peut faire craquer le coupable, en fait.
Oui, en fait, voilà, c'est exactement ça. Enfin, ceux qui sont très solides arrivent à résister, mais d'autres, bon, finissent par craquer. À l'inverse, certains bandits futés savent que la police va rechercher ces indices. Et par exemple, le cas d'Aldo Moro est assez typique. Hein, vous vous souvenez, Aldo Moro avait été enlevé.
Ouais. Et il a été Aldo Moro, c'était les Brigades Rouges, c'est ça ou
C'est ça, c'est ça. Donc dans les années 70, quelque chose
abattu,
comme ça.
Homme politique abattu par les Brigades Rouges. Hein, si...
Oui, ouais. Il a été retrouvé dans une voiture, une 4L, si je me souviens bien, enveloppé dans une couverture avec beaucoup de sable, etc. Donc, on a retrouvé Aldo Moro, mais pas les coupables. Donc, la police a analysé le sable et ils se sont aperçus que ce sable venait du nord-ouest de Rome. Donc, ils ont concentré leurs recherches sur les plages au nord-ouest de Rome. Et pour pouvoir faire des prélèvements sans se faire repérer par les éventuelles brigades rouges, ils y allaient, par exemple, ils essayaient de se camoufler, ils y allaient avec la famille, jouer sur le sable Et puis le papa, ben avec le château de sable, il prenait un petit souvenir. Enfin bref, ils avaient... Vous voyez, ça veut dire que c'était assez... Ils ont pris plein de précautions et ils n'ont pas réussi à localiser les brigades rouges. Et des années après, quand les brigades rouges ont été interpellées, et ils ont dit, mais pourquoi ce sable vient du nord alors que vous êtes du sud-est de Rome? Et là, les brigades rouges avaient dit, ben on se doutait qu'en vous mettant des éléments, on pouvait vous mettre sur une fausse piste.
Un grand classique également des voleurs, donc vous en avez parlé juste tout à l'heure, c'est de subtiliser une cargaison précieuse et de la remplacer par du sable, des cailloux ou du béton. Donc il y a un exemple que vous relatez, c'est un chargement d'ordinateur qui quitte le Texas pour l'Argentine en faisant une escale à Miami et en arrivant, plus d'ordinateur, mais des blocs de béton à la place. Alors là, finalement, comment les enquêteurs, avec ces blocs de béton, réussissent à trouver le coupable?
Alors le béton parle peut-être moins qu'un caillou pour un géologue. Néanmoins, le béton est constitué d'éléments minéraux. Et donc ils ont dissous, il y a une partie de carbonate de calcium dans le béton importante, ils ont dissous tout ce qui était carbonate de calcium, donc y compris le calcaire, donc là ils perdaient des informations, mais ils ont ainsi récupéré les petits éléments, les petits minéraux, qui sont certes moins nombreux, mais qui donnent le plus d'éléments. Et grâce à ces petits minéraux, ils ont recherché quel type de béton faisait ce genre utilisait ce genre de minéraux. Ils ont localisé un endroit, justement à Miami, proche de l'endroit où avait pu être fait le transfert. Là aussi, le périmètre de recherche a été circonscrit et ils ont fini par mettre la main sur les coupables.
Même procédé également en Angleterre où un chargement censé contenir de l'or, donc c'est assez lourd, est remplacé par des galets. Or en fait, un galet pour beaucoup de monde, bah voilà, c'est rien du tout. Alors que pour un géologue, il raconte beaucoup de choses.
Oui, les galets sont ronds, donc ils passionnent beaucoup de monde. On va dans presque toutes les familles, on trouve des galets à côté d'une plante, parce que c'est un petit souvenir. Voilà, rien que la forme intéresse. Mais il y a aussi la composition, et celle-là intéresse plus les géologues. Et donc, c'était de l'or. Vous savez que l'or est très très dense, hein, c'est la densité, c'est 19. Donc, un litre d'or, ça se présente pas en litres souvent, mais enfin, un litre d'or, ça fait 19 kilos. Donc, les voleurs étaient assez futés quand même, parce qu'ils ont recherché des cailloux qui étaient eux-mêmes très denses. Et analysant ces cailloux, on s'est dit, ben, d'où ça peut venir? Ben, des roches denses comme ça se trouve, ce sont des roches qui sont issues du manteau, que l'on trouve dans certains coins des Alpes, et comme c'était des galets, ben, ça venait donc des Alpes, et sans doute des zones, ce qu'on appelle les zones internes, donc plutôt les Alpes côté italien. Et justement, la cargaison était passée, avait fait escale à Milan. Donc là encore, ils se sont dit, ah, peut-être que ça vient de Milan. Et ils ont appréhendé ainsi les responsables.
C'est ça, ouais. Patrick de Wever, on le disait, vous êtes géologue, vous êtes spécialiste des microfossiles hein, qu'on retrouve au cœur de certaines roches calcaires. Que racontent justement ces microfossiles dans certaines enquêtes?
Bon, on peut raconter à peu près les mêmes histoires. Il y a par exemple vous savez que les diamantaires appellent leurs diamants un peu bruts des cailloux. Donc une fois, quelques années, il y a un chargement de cailloux qui quitte l'Afrique du Sud pour Anvers, et arrivé à Anvers, ben, les cailloux sont devenus des réels cailloux de nature diverse. Donc ils ont cherché à localiser là aussi, parce que pour les malfrats, souvent un caillou c'est égal à un caillou, parce qu'un caillou n'est pas identifiable, c'est n'importe quoi. Mais en fait, ça ne l'est pas pour le géologue. Ils ont donc pu identifier deux sources possibles où le transfert avait pu être fait, et analysant la surface des cailloux, ils ont vu des grains de pollen. Avec ces grains de pollen correspondent à un environnement, et donc ils ont pu localiser. Mais exactement la même chose a été fait avec une cargaison de parfum qui est partie de France pour les États-Unis. À l'arrivée, c'était du sable, et puis ben, le sable a éternisé, c'était d'ailleurs dans mon labo, et le spécialiste a reconnu le sable, le sable issu qui venait de Californie. Alors c'était une double importance, ça permettait de circonscrire, mais aussi, vous voyez, la cargaison était partie de France, c'est un droit donc français-européen. Alors que, comme le transfert était effectué aux États-Unis, ça relevait du droit américain pour les assurances et pour la police, la démarche était tout à fait autre.
Les voleurs devraient faire des études de géologie. Il y a encore un autre exemple. C'est l'exemple avec des diatomées. Les diatomées, c'est des micro-algues hein, qu'on trouve dans les lacs ou dans la mer et tout ça. Et parfois, on les retrouve fossilisées à l'intérieur de roches. Elles ont permis de faire avancer l'enquête sur le kidnapping. C'était en 1967 de Kenneth Young, le fils d'un financier américain.
Oui, il a été enlevé, donc une rançon a été payée, etc. Ensuite, ils ont retrouvé le véhicule qui avait été proprement lavé. Tout avait été fait nickel. Sauf que, à l'arrière, sur le tapis de sol, ils ont prélevé, ils ont aspiré toutes les petites poussières. Et parmi ces petites poussières, ils ont retrouvé ces squelettes de toutes petites diatomées. Et il y avait deux types de diatomées. Alors, c'était en Californie. Il y a beaucoup de des roches avec des diatomées. On appelle ça une diatomite. Si vous utilisez peut-être sans le savoir de la diatomite chez vous comme tapis de sortie de bain. Bref, ces diatomées ont été localisées et ça a permis de parfaitement circonscrire l'endroit d'où venaient ces diatomées. Et donc les voleurs ont été repérés comme cela.
On adore vos histoires, Patrick de Wever, co-auteur donc de la géologie au service de l'enquête aux éditions Belin. On les adore tellement qu'on a envie de vous réinviter demain. Ça vous dit de revenir demain matin dans l'émission?
Si vous voulez, si vous voulez un café, je veux bien.
Bah alors le café sera servi, il n'y a pas de souci, vous serez là pour raconter comment les géologues utilisent des méthodes sophistiquées justement pour confondre les faussaires et parfois trouver des cadavres ou des cavités dans les pyramides. Merci et à demain donc Patrick de Wever. Demain on verra également comment les baleines, même adultes, continuent de s'apprendre à chasser ensemble.
CQFD, Stéphane Gabiou.
Et dans quelques minutes, tribu présentée par Jérôme Timmerman. Bonjour Jérôme.
Bonjour Stéphane.
Où en est le développement durable?
Oui, on parle développement durable. Quel est le message aujourd'hui? Que font les États dans un contexte de société qui avance toujours plus vite, qui doit vivre au milieu de messages contradictoires? Donc on va recevoir ce matin dans tribu René Longer, qui est auteur de Planète État d'urgence. Les réponses de la durabilité, c'est dans la collection Savoir Suisse des presses polytechniques et universitaires romandes.
Après les infos de 11h sur RTS.